toute l'info après chez vous. Et c'est présenté par Fabien Gazeau. Bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. Les sénateurs ont approuvé hier le projet de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Le sénateur de Sévrien, Philippe Mouiller, a voté pour. Il s'en explique dans ce journal. Une hausse de la fiscalité est envisagée. À Noailles-les-Aubiers, le contexte inflationniste oblige les élus à s'y résoudre. Regroupés au sein d'un RPI, les écoles du Busseau et de Beugnon-Tireuil craignent de perdre une classe à la rentrée prochaine. Enfin, la foire expo de Bressuire aura lieu du 15 au 18 mars sur le thème du Portugal. BBA prépare l'événement. Le Sénat a donc adopté le projet de loi constitutionnelle par 267 voix pour et 50 voix contre visant à inscrire l'IVG dans la Constitution, ce qui ouvre désormais la voie à son adoption définitive par le Congrès qui réunit députés et sénateurs. Le Congrès doit se réunir lundi prochain à Versailles. Le vote des sénateurs républicains était déterminant et 72 d'entre eux ont voté pour l'inscription, 41 contre, 13 abstentions, alors que 6 sénateurs élèves n'ont pas pris part au vote, dont le de Sévrien Gilbert Favreau. Philippe Mouiller, lui, a voté pour sans hésitation sur le fond, mais après réflexion sur le plan juridique.
Non pas sur le principe de la constitutionnalisation de l'IVG, là-dessus les choses étaient claires pour moi. Je pense que c'est une démarche importante. Non, là où j'ai hésité, c'est que c'était notamment sur les débats autour de la clause de conscience pour les professionnels de santé. Parce que le fait de constitutionnaliser entraîne forcément des droits nouveaux. Alors, le droit le plus important, c'est le fait de ne plus s'opposer aux politiques en matière d'IVG. Ça, c'était le point essentiel. Mais ça veut dire aussi qu'en matière de droit, la grande question, c'est est-ce que ça devient un droit opposable? Et donc, à travers tout ça, est-ce qu'il y a obligation pour les professionnels de santé qui ne souhaitent pas pratiquer ce type d'intervention de le faire? Voilà, donc on a un grand débat qui était plutôt un débat de droit, finalement, plus que sur le fond.
Il y a beaucoup de réactions après ce vote des sénateurs, qualifié par certains et certaines d'historiques. Philippe Mouiller est plus mesuré.
Moi, je suis plus mesuré, parce qu'en réalité, je dirais, il est historique sur le principe, mais imaginez que le fait de le mettre dans la Constitution règle définitivement les enjeux ou les risques concernant l'IVG, c'est mal connaître le droit. Voilà, donc je crois qu'il faut avoir cette prudence. Je pense que c'est un acte important, ça veut dire que quelque part ça crée une protection supplémentaire, mais elle n'est pas fondamentale. Voilà, je crois que c'est important. Par contre, en parallèle, notamment ces travaux que j'ai enclenchés moi au niveau de la commission d'affaires sociales, la vraie question de fond qui reste, c'est aujourd'hui quelle est la capacité réelle de l'accès à l'IVG aujourd'hui en France. Parce qu'on se rend compte qu'en même temps que l'on discute de ce texte de constitutionnalisation, en même temps que le gouvernement met en avant, je dirais, cet point fort, les crédits alloués sur les centres sont en diminution. Je rappelle qu'il y a 130 centres aujourd'hui en France qui ont fermé depuis 3 ans. Et voilà, il faut avoir à la fois le discours politique, mais également les moyens. Et donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que partout en France, les femmes aient un accès justement à des centres dédiés pour l'interruption volontaire de grossesse.
Le sénateur de Sévrien, Philippe Mouiller, à propos de l'adoption par le Sénat du projet de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Une hausse de la fiscalité envisagée à Noailles-les-Aubiers, compte tenu d'un contexte pour le moins tendu, avec des dépenses énergétiques qui ont explosé le double par rapport à 2021, de la revalorisation nécessaire du point d'indice des agents, tout cela associé à une inflation générale. Le budget de la commune est fortement impacté et devra s'adapter à cette situation. Serge Bouju, le maire de Noailles-les-Aubiers, au micro de Patrice Bémanangy.
Pour la commune, c'est un peu la double peine, puisque l'inflation gonfle nos dépenses de fonctionnement, elle réduit notre épargne et donc nos capacités d'investissement, qui sont elles aussi victimes d'une inflation encore plus forte sur nos projets d'investissement. Pour rester dans des ratios acceptables, il va nous falloir ne pas emprunter en 2024, tout en poursuivant des projets déjà engagés, je pense au village des Samars, au lotissement du Coteau des Justices, à la halte vélo, et peut-être en faisant glisser vers la fin de l'exercice 2024, d'autres projets qui s'annoncent pour Noailles-les-Aubiers.
Bien entendu, la question que tous les Noailles-les-Aubiers vont se poser, qu'en est-il de la fiscalité?
Les taux de fiscalité qui à Noailles-les-Aubiers sont inchangés depuis 2021 vont être étudiés, parce que dans le cadre budgétaire actuel, la qualité des services rendus, les équipements mis en place, les projets en cours ont un coût, et malgré les subventions obtenues et à venir, eh bien, des recettes supplémentaires sont nécessaires. Et on n'écarte pas la possibilité de faire évoluer les taux de fiscalité. On est au stade des orientations budgétaires, on ne peut pas d'ores et déjà annoncer des chiffres.
Et le budget 2024 de la commune de Noailles-les-Aubiers sera voté le 27 mars prochain. C'est devant l'école du Busseau, plus visible le long de la départementale 744 qui mène à Niort, que les parents d'élèves des écoles du regroupement pédagogique intercommunal et les maires des communes du Busseau et de Beugnon-Tireuil concernées par ce RPI ont manifesté hier après-midi pour défendre leurs écoles contre la fermeture d'une classe à Beugnon-Tireuil. Au dernier comptage de janvier, les écoles situées sur les deux sites comptent 5 classes pour 95 élèves, en dessous du seuil des 100 élèves, critère retenu par l'éducation nationale. Laurie Géron est représentante du collectif des parents d'élèves.
On est en risque de fermeture de classe pour la rentrée 2025 et les prévisions nous montrent que pour le moment, on serait aussi en risque pour l'année qui viendrait. Ce qui voudrait dire qu'on perdrait 2 classes sur 2 années et ça fait beaucoup. Et au-delà de classes qui ferment, on risque aussi de perdre des familles et donc les commerçants, toute la vie de la communalité risque d'être impactée.
Et tout comme Laurie Géron, le maire du Busseau, Philippe Dedoyard, n'admet pas cette vision comptable de l'éducation.
Je crois que quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, avoir une vision uniquement comptable de l'éducation, c'est lamentable. Je crois aussi que pour qu'il y ait de l'égalité des chances, il faut vraiment que, surtout dans la première partie de l'éducation, l'école soit présente et proche des habitants pour qu'elle soit efficace. Et une classe qui ferme, c'est l'avenir d'un enfant rural qui aura moins de chances qu'un autre.
Même constat à Beugnon-Tireuil, le maire Denis Onillon ne cachait pas son exaspération et pointait du doigt une carte scolaire non respectée.
Je vais accuser personne, mais aujourd'hui le service scolaire est considéré pour les parents comme un service lambda. Et les communes ont quand même un service scolaire et il y a une carte scolaire communale qui doit être respectée. Autrement dit, tous les parents d'une commune doivent scolariser les enfants dans leur commune. Cette carte scolaire n'est pas du tout respectée, ce qui nous enlève 15 enfants de nos effectifs et qui met à mal l'ensemble des classes du RPI. Avec 15 enfants en plus, effectivement, on a plus de 100 enfants scolarisés et auquel cas on ne parle même pas de fermeture.
Vous seriez prêt à aller jusqu'au tribunal administratif si besoin ?
Écoutez, c'est une réflexion que j'envisage en tout cas. Donc si rien ne bouge, il y a un moment donné où il y a une institution pour ça.
Voilà pour ce reportage signé Jacqueline Pinon hier au Busseau. Des permanences multi-administration dans les sous-préfectures face aux difficultés du monde agricole. Les services de l'État des Deux-Sèvres indiquent se mobiliser pour offrir un accueil multi-service sans rendez-vous aux agriculteurs sur l'ensemble du département. 3 permanences sont ainsi prévues ce vendredi 1er mars de 10h à midi à la direction départementale des territoires de Niort, de 10h à midi également à la sous-préfecture de Parthenay, de 14h à 16h à la sous-préfecture de Bressuire. Ces permanences regrouperont les finances publiques, la direction départementale des territoires, l'Office français de la biodiversité ainsi que la MSA, la Mutualité sociale agricole. Nouvelle aventure, nouvelle histoire, c'est en ces mots que le président de BBA Bressuire Bocage Animation a présenté ce mercredi la prochaine Foire Expo de Bressuire qui se déclinera du 15 au 18 mars autour du Portugal. Une fois de plus, les allées de Bocapol seront très animées sur cette thématique avec une délégation composée d'une 50aine de membres habitués à animer des rendez-vous comme celui-ci dans toute l'Europe. Côté artisanat, une 10aine de stands présenteront poterie, céramique, épicerie fine, vin et autres bijoux, toujours sur le thème du Portugal. Jacques Rambeau, le président de BBA.
Au départ, on s'est dit, le Portugal, c'est connu de beaucoup de gens. Est-ce que ça va attirer le monde, la foule, à la Foire Expo? Et puis après, en écoutant, tout le monde m'a dit, mais Jacques, c'est un thème porteur, parce qu'il y a beaucoup de Portugais dans le coin. Ça va, au contraire, attirer beaucoup de monde. Donc, on aura tous les artisans commerçants portugais, la troupe folklorique portugaise aussi, 50 personnes, 48 exactement. Et puis, dans le thème, un trio portugais aussi, Lucie Banda, donc il va jouer en permanence. Les nouveautés, bon, on aura par exemple au niveau des exposants, si on parle des exposants, c'est bien sûr, on avait toujours des difficultés pour avoir des camping-cars. Cette année, à la Foire Expo, ben, il y aura 25 camping-cars qui seront exposés là pour la vente, bien sûr, pour le commerce.
Et côté spectacle, en passant 100% Goldman est programmé le samedi 16 mars pour une grande soirée pop-rock des années 80 à 90. Les nouveautés cette année ne s'arrêtent pas là puisque Pascal le Grand Frère est attendu le lendemain dimanche sur la foire. Jacques Rambaud.
Pascal le Grand Frère, c'est un animateur sur TF1, C8 et donc il sera là tout le dimanche à partir de midi. Et à 17h, on va faire le tirage d'un permis de conduire à un jeune, une formation permis de conduire pour être précis sur les mots.
Pourquoi un jeune?
Un jeune ou un... Oui, je me trompe peut-être. Un moins jeune, j'allais dire un moins jeune. Il y a pas... Bon, ça paraît naturel que ça soit un jeune, mais bon, vous savez, c'est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'est aussi original, puisque habituellement, dans les bourriches, ben, vous savez, c'est des lots, les lots traditionnels, voyages, machin et compagnie. Et là, ben, ce sera une formation permis de conduire.
Et c'est acté par la préfecture.
Ah ouais. Il faut bien savoir que cette démarche-là, c'est la préfecture qui a désigné l'auto-école. Bon, ben, c'est Anne-Laure Auto-école qui a été désignée par la préfecture.
Pascal, le Grand Frère, attendu donc le dimanche 17 mars à Bocquepol-Bressuire à l'occasion de la prochaine Foire Expo sur le thème du Portugal. Au programme, foire commerciale, foire agricole, fête foraine, ce sont au total 150 exposants qui seront présents sur les 4 jours du 15 au 18 mars prochain. Pendant tout le mois de mars, la médiathèque de Thouars organise une vente de CD au prix de 50 centimes l'unité et de magazines musicaux 1 euro le lot de 10. Cette vente a lieu dans le hall et dans la section images et sons de la médiathèque, l'occasion de dénicher des pépites. On termine enfin avec une info qui ne va pas faire plaisir aux supporters des Chamois-Niortais puisque la rencontre face à Marignane qui devait avoir lieu demain soir à 19h30 est avancée à 15h ce vendredi à cause d'un problème d'éclairage sur le stade René Gaillard. Le club de Marignane a accepté la proposition et la Fédération Française de Foot a validé cette reprogrammation de dernière minute. La propriété de la collectivité, l'état du stade souvent décrié localement va donc connaître un retentissement national qui fait tache alors que les Chamois brillent sur le terrain. Match donc demain après-midi, un vendredi après-midi à 15h pour ce match de national entre les Chamois et Marignane.
Quel temps aujourd'hui? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le ciel est toujours menaçant cet après-midi avec quelques pluies éparses, du vent également à signaler cet après-midi avec des rafales à 50-55 km/h. Les températures jusqu'à 12-13 cet après-midi. On retrouvera le même type de temps demain, de la grisaille avec quelques averses au programme de ce vendredi. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h avec Patrice Bémanangy.